France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Pascal Senelard, la physicienne, membre de l'Académie des sciences et médaille d'argent du CNRS, et notre invité. Ses travaux sont reconnus sur le plan national et international, car ses recherches ont été une étape importante pour le développement des technologies quantiques. Experte dans la fabrication de ces nanostructures que sont les boîtes quantiques, depuis bientôt 20 ans, Pascal Senelard pose les premières briques nécessaires à l'avènement de l'ordinateur quantique. La scientifique a un pied dans la recherche fondamentale et un autre dans l'innovation technologique. En 2017, elle cofonde la start-up Candela, spécialisée dans la conception de l'informatique de demain. Pascal Senelard, c'est dans la boîte quantique. Pascal Senelard, bonjour.
Bonjour Natacha.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci, vous êtes physicienne, directrice de recherche CNRS au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie, cofondatrice et conseillère scientifique de la start-up Candela et membre de l'Académie des sciences. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Et merci à celles et ceux qui nous retrouvent sur Blue Sky. Comme tous les jours, cette émission peut donc s'écouter tout en nous suivant, alors non plus sur Twitter, X, mais sur Blue Sky, notre compte @sciencesqfd regorge de sources et de ressources. Alors, quelles sont vos contributions en photonique quantique? En quoi constitue-t-elle un passage obligé pour le développement des communications quantiques et des ordinateurs quantiques? Et quels sont les obstacles qui restent à franchir pour obtenir des ordinateurs performants? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais avant de nous plonger dans l'avenir de ces technologies, on fait un retour aux fondamentaux avec l'un des pères de la mécanique quantique, Louis de Broglie, c'est notre archive du jour.
La physique quantique a pris à partir de 1923 une forme nouvelle, celle de la mécanique ondulatoire. À ses débuts, et dans les conceptions de son premier pionnier, la mécanique ondulatoire devait rendre compte de la dualité onde-corpuscule, des ondes et des corpuscules, et plus généralement de la dualité des champs et des grains, en réalisant une fusion de ces deux aspects de la réalité physique. Fusion où la constante de Planck interviendrait d'une façon essentielle, mais qui, cependant, respecterait entièrement l'idée classique de la représentation des phénomènes dans le cadre spatio-temporel. Par conséquent, ces idées introduisaient une liaison tout à fait insoupçonnée jusque-là entre les notions d'onde et de corpuscule, en introduisant la constante des quantas comme intermédiaire, mais dans les idées que j'ai eues au moment où j'ai développé ces premières idées, elle ne devait pas s'écarter d'une façon définitive de la représentation dans l'espace et dans le temps.
Louis de Broglie dans Le Monde s'élargit, les sentiers de la physique, diffusé en 1955 sur la RTF. Alors, au début du XXe siècle, voilà, la physique quantique a révolutionné la vision du monde et elle est au cœur de la première révolution quantique du XXe siècle.
Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant cette archive parce que Louis de Broglie, effectivement, illustre ici un des concepts fondamentaux qui a été introduit au début du XXe siècle par les pères fondateurs, dont Louis de Broglie, sur la dualité onde-corpuscule. Donc c'est l'idée, par exemple, que la lumière qu'on connaît comme un objet ondulatoire est aussi une particule et que symétriquement, un électron auquel on pense comme une particule est aussi une onde. Ce qui m'interroge dans cette interview, c'est qu'il complète en disant que ça ne bouleverse pas notre conception de l'espace et du temps. Et là, pour le coup, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord aujourd'hui, puisqu'il y a eu justement toutes ces expériences sur l'intrication qui bouleversent notre façon de penser le système physique.
Oui, l'intrication quantique, la superposition, ça, ce sont des concepts plus subtils encore de la mécanique quantique et qui sont au cœur de cette seconde révolution que nous sommes en train de vivre.
Tout à fait. Donc, pour revenir à votre première question, la première révolution quantique, on l'a tous vécue, enfin toutes les personnes qui sont assez âgées pour avoir vécu ça, dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec en gros, toutes les révolutions technologiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, le développement du transistor, du laser, du GPS, etc., etc., et qui est partout dans notre quotidien. Et pour cette première révolution quantique, finalement, on n'a exploité qu'une petite partie des principes de la mécanique quantique introduits au début du XXe siècle, dont la dualité onde-corpuscule, qui donne lieu à la quantification des niveaux d'énergie. Et effectivement, ce qui nous intéresse maintenant, depuis une vingtaine d'années, c'est d'aller au-delà de ça, d'exploiter des concepts qui, au départ, paraissaient tellement subtiles et fragiles qu'ils paraissaient inaccessibles à l'expérience et que l'on maîtrise maintenant dans les laboratoires, au point qu'on envisage maintenant d'en faire des applications nouvelles.
Vous êtes d'ailleurs au cœur de cette seconde révolution quantique, Pascal Chenella. Et pour commencer cette émission, j'aimerais bien intriquer, sans mauvais jeu de mots, votre biographie, votre parcours avec les connaissances que nous avons justement en physique quantique. Et tout d'abord le point de départ. Vous savez d'où vous vient votre goût des sciences et de la mécanique quantique?
Alors, mon goût des sciences, je ne sais pas trop le définir quand est-ce qu'il a commencé, mais je sais que dès très jeune, en fait, je m'amusais à fabriquer des calculatrices avec des Legos et des... Voilà. Donc, j'ai toujours eu envie de faire des sciences. Le goût de la mécanique, de la science, je l'ai beaucoup développé parce que j'ai été accueillie en tant qu'adolescente à la station de radioastronomie de Nancy à partir de mon stage de troisième. Là, j'ai eu une chance incroyable où les ingénieurs et les chercheurs m'ont accueillie plusieurs semaines par an pendant plusieurs années. Donc là, je savais que je voulais faire des sciences. Mais vous voyez que j'étais au contact des gens qui étudient l'infiniment grand. Et finalement, ce n'est pas ça que j'ai choisi de faire une fois que j'ai fait des études supérieures. Et je savais que je voulais aller vers la mécanique quantique, mais je n'avais pas vraiment de raison réelle pour cet attrait. Et ce qui est arrivé, c'est en fait une rencontre, je dirais réelle, lors d'un oral du concours de l'École normale supérieure de Lyon, où les deux examinateurs m'ont fait réfléchir avec les petits outils que j'avais en tant qu'étudiante de terminale à cette dualité onde-corpuscule, justement, dans le cas du photon. Ils m'ont fait analyser ce qu'on appelle l'expérience des fentes de Young. Donc l'expérience des fentes de Young, vous imaginez un panneau dans lequel vous avez deux trous et vous envoyez de la lumière. Comme c'est de la lumière, vous voyez à la sortie des interférences entre la lumière qui passe entre les deux fentes. Et ils m'ont fait réfléchir à qu'est-ce qui se passe si on réduit le flux lumineux au point qu'il n'y a plus qu'un seul photon qui se propage dans ce système. Et là, on rentre dans le domaine de la dualité onde-corpuscule. Donc si je pense au photon comme une onde, eh bien, pas de problème, il passe par les deux fentes et tout va bien. Mais si je pense au photon comme à une particule, je me dis qu'il doit passer d'un côté ou de l'autre. Et donc il y a un petit exercice qu'ils m'ont fait faire, où on essaye de mettre au point une expérience pour trouver par où passe le photon, mesurer par où passe le photon. Et là, on comprend que si on essaye de... On peut montrer, avec vraiment très peu d'équations, que si on essaye de savoir par où passe le photon, eh bien, en fait, on détruit la figure d'interférence. Et donc, on montre qu'en mécanique quantique, le photon qui passe réellement par deux endroits, cette superposition quantique que je suis en train de vous décrire, eh bien, je la détruis si j'essaye de savoir par quel endroit le photon est passé. Et donc, ils m'ont, en fait, ces deux examinateurs, lors d'un oral d'une heure, m'ont ouvert la porte à ce phénomène qui est quand même très intriguant et assez fascinant. Et de ce jour-là, je savais que je voudrais faire de la mécanique quantique.
Voilà, c'est le monde de la mécanique quantique et ces étrangetés qui ça vous apparaît à ce moment-là. Vous nous avez confié en amont de cette émission que vous trouvez justement les concepts magnifiques de la mécanique quantique.
Oui, bien sûr. Enfin, c'est très troublant de penser que l'observateur modifie le résultat d'une mesure et l'état du système. Et c'est vérifié tous les jours dans le laboratoire. Il n'y a plus aucun doute, il y a beaucoup de questions encore philosophiques qui sont liées à ce phénomène. Mais d'un point de vue pratique, on l'observe tous les jours.
Je remonte un tout petit peu avant ce concours de l'ENS de Lyon. Il y a eu un moment aussi déterminant dans votre parcours. En 1987, la région Centre crée une bourse pour soutenir la vocation scientifique féminine.
Oui, tout à fait. En fait, c'était... absolument inédit. Hein. Il lançait cette année-là une bourse pour la vocation scientifique féminine. Et j'ai eu une chance incroyable parce que mon professeur de mathématiques de première m'a dit que je devais postuler et qu'il fallait le faire. Et ce monsieur ne savait pas qu'en fait, c'était absolument critique pour moi, pour ma famille, pour me permettre d'aller faire des études à Paris. Et donc, je l'ai décroché. Grâce en fait à l'expérience que j'avais eue à la station de radioastronomie, j'avais beaucoup de choses à raconter sur ma motivation pour les sciences. Et donc j'ai eu cette bourse et cette bourse m'a permis d'aller faire mes études après le bac au lycée Louis-le-Grand, en prépa, où là on est au contact quand même avec, on est tout près des écoles normales, supérieures, etc. On est au contact du plus haut niveau de la science et on se dit que finalement c'est possible et qu'on peut en faire partie. Donc je dois beaucoup à cette bourse, à l'identification du fait que les femmes, les jeunes femmes, avait besoin finalement d'être un petit peu stimulé pour oser se lancer dans ce genre de parcours scientifique.
Vous vous lancez donc dans ce parcours scientifique. À l'école polytechnique, vous suivez les cours de physique quantique donnés par Alain Aspect, prix Nobel de physique. Vous soutenez votre thèse en 2001. Cette thèse, elle se trouve à l'intersection entre deux champs, hein, l'optique quantique et l'étude des matériaux semi-conducteurs. On peut peut-être rappeler où en était la recherche au moment de votre thèse, du côté de l'optique quantique d'abord.
Alors, en fait, à Polytechnique, j'ai eu des cours, effectivement, avec des gens qui m'ont fait découvrir la mécanique quantique, comme Jean-Louis Badevant et Alain Aspect, et qui m'ont fasciné, mais également avec des professeurs très forts sur les matériaux semi-conducteurs, comme Claude Weisbuch. Alors, commençons par l'optique quantique. Effectivement, ces phénomènes qu'on peut observer avec un seul atome, un seul photon, et comment la lumière et la matière se couplent ensemble, c'était déjà au cœur de ma thèse, où j'essayais d'explorer l'interaction lumière-matière avec des matériaux semi-conducteurs. En thèse, j'étais pas encore en train d'étudier des atomes uniques. On reviendra dessus. Mais j'étais déjà à l'interface de ces deux domaines, l'optique et les matériaux semi-conducteurs. Et c'est ensuite, quand je suis entrée au CNRS, que j'ai construit un projet de recherche qui est vraiment à l'interface entre l'optique quantique et les matériaux semi-conducteurs. Donc l'optique quantique, quelle était la maîtrise et quel était le sujet qui nous intéressait à l'époque. Donc il y avait l'idée qu'un atome unique, si on est capable d'isoler dans la nature un seul atome, eh bien cet atome doit émettre des photons un par un. Il y avait eu, en fait, 10 ans avant, des expériences fondatrices, notamment par Alain Aspect, encore, qui avaient montré que c'était effectivement le cas, mais avec un ensemble d'atomes. Ce n'était pas encore possible à l'époque d'isoler un seul atome pour montrer qu'un atome unique émettait des photons un par un. Et c'était le sujet qui m'intéressait, mais pas avec des atomes, mais avec des systèmes semi-conducteurs. Donc de ce côté-là, il y avait eu aussi tout un travail qui avait été fait de manière très pionnière en France, dans les laboratoires du Centre national des télécommunications, avec des chercheurs qui travaillaient sur les matériaux semi-conducteurs. Alors peut-être pour expliquer quand même de quoi il s'agit. Autant il est facile de comprendre ce que c'est qu'un seul atome, qu'un seul photon, autant les matériaux semi-conducteurs sont des systèmes plus complexes, où en fait on a des matériaux qui sont arrangés dans une forme cristalline, hein, donc les atomes sont très ordonnés, et c'est parce qu'ils sont très ordonnés que ces matériaux ont des propriétés très différentes et parfois spectaculaires. Et donc, par exemple, l'agencement des atomes va définir si votre solide est un conducteur ou un isolant, ou ce qu'on appelle un semi-conducteur, quelque chose qui est entre l'isolant et le conducteur. Et donc, ces chercheurs, dans les années 80, au CNET, au Centre National d'Études des Télécoms, faisaient de la croissance de ces matériaux, où ils font croître des atomes très organisés sur un cristal. Ils ont essayé de faire croître des nouveaux atomes sur un cristal, parce qu'ils avaient un objectif de développer des nouveaux lasers pour les communications. Et en fait, en essayant de faire ça, ils ont essayé de faire croître deux cristaux, finalement, qui avaient une distance naturelle entre les atomes qui était un petit peu différente. Et là, ça se passe pas très bien, parce que forcément, les atomes ont une distance qui leur convient. Et en faisant ça, finalement, au lieu que ça se passe bien et qu'on ait un beau cristal bien ordonné, ils ont vu apparaître des défauts. On peut considérer ça comme des défauts, qui étaient en fait des petits amas du matériau qu'ils essayaient de faire croître, qui n'étaient plus bien ordonnés, mais plutôt en petits tas. On appelle ça des nanostructures. Et ces petits tas, en fait, au départ, allaient à l'encontre de leur recherche, si vous voulez. Mais il y a eu des gens qui ont eu une idée géniale, qui se sont dit, mais en fait, ces petits tas qui correspondent en fait à une dizaine de milliers d'atomes dans ma matrice semi-conductrice, eh bien, ils doivent se comporter comme un atome unique. Il y a notamment deux chercheurs que je voudrais mentionner, Jean-Yves Marzin et Jean-Michel Gérard, qui ont fait une première expérience sur ces petits amas qu'on appelle des boîtes quantiques, c'est ça qu'on appelle les boîtes quantiques, en 1994, et qui ont montré qu'effectivement, ces dizaines de milliers d'atomes dans un petit tas se comportaient comme un atome unique. Et là, ça a lancé le sujet à l'interface entre l'optique quantique et ces matériaux.
Et ce sujet, vous en prenez justement, vous le prenez à pleine main quand vous entrez au CNRS à partir de 2002. Et c'est à ce moment-là que vous cherchez justement à reproduire des expériences fondamentales de la physique théorique dans des matériaux semi-conducteurs et que vous vous intéressez à cet atome unique, appelé aussi boîte quantique, et donc des amas de 10 000 atomes.
Oui, c'est ça. Donc en fait, quand je suis arrivée au CNRS, donc en 2002, il y avait eu aux États-Unis une première démonstration du fait que ces systèmes émettaient des photons un par un. Et puis, il y avait eu une première démonstration de preuve de concept, qui montrait qu'on pouvait, en quelque sorte, rediriger l'émission de ces atomes. Alors, je voudrais expliquer un petit peu ici quel est le problème. on a envie d'avoir des photons. Alors d'abord, on a envie d'être capable d'étudier des photons uniques, etc. Mais on se dit ensuite que si on est capable d'avoir des sources qui émettent des photons apparents, on pourrait faire des expériences très belles, plus compliquées en mécanique quantique. Et l'atome émet un photon. Mais l'atome émet un photon par les lois de l'électromagnétisme, comme c'est un émetteur très petit. Cet atome émet son photon dans toutes les directions de l'espace.
En direction privilégiée.
Voilà, donc dans tous les sens. Et donc, vous êtes derrière avec un dispositif expérimental et vous avez envie de récupérer le photon. Et là, ça devient compliqué, parce que si le photon est émis dans toutes les directions, vous demandez à l'atome d'émettre un photon, il émet un photon, mais la probabilité que vous récupérez ce photon pour l'utiliser, pour l'étudier, pour faire quelque chose, est très faible, de l'ordre du pourcent. Alors, pour contourner cette difficulté, il y a eu un papier très fondateur de Edward Purcell en 1946 qui explique que l'émission en fait de lumière par un atome n'est pas une propriété seule de l'atome, mais une propriété conjointe de l'atome et de son environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire son environnement ? Son environnement du champ électromagnétique. Et qu'en particulier, si on met cet atome entre deux miroirs, ce qu'on appelle une caisse de résonance optique, on appelle ça une cavité optique, il faut penser à ce système comme à une corde de guitare hein, qui bloque la lumière de part et d'autre, comme la corde de guitare est tenue à chaque bout, et ça définit des fréquences de résonance. Et donc si vous mettez votre atome dans cette caisse de résonance optique, eh bien en fait, on peut, d'un point de vue classique, visualiser le fait que par exemple la lumière va faire un grand nombre d'allers-retours dans cette cavité. Ce qui veut dire qu'on va avoir une augmentation du champ électrique à l'intérieur de la cavité. Et l'atome se couple à ce champ électrique. Donc Purcell prévoit en 1946 qu'on va pouvoir modifier la façon dont l'atome émet de la lumière. Et donc dans les années, fin des années 90, Jean-Michel Gérard, justement, a fait une première expérience en mettant pas un seul atome, mais plein d'atomes dans une cavité pour montrer qu'effectivement, on va pouvoir modifier l'émission de ces atomes et montrer en particulier qu'ils émettent plus rapidement que si on les laisse dans le vide.
Donc en fait, avec votre technique, si on met une boîte quantique dans une cavité optique, définie selon un certain mode, on peut accélérer l'émission de photons par l'atome.
C'est ça, on accélère l'émission du photon par l'atome dans une direction avec un profil, si vous voulez, spatial, qui sera ensuite facile à collecter, à récupérer, par exemple, pour coupler dans une fibre optique, pour ensuite faire des expériences.
Alors, comment ces travaux vous ont-ils amené à l'ordinateur quantique ?
Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, nous avons la joie de nous entretenir une heure avec la physicienne Pascale Senella. On vient de parler de vos travaux sur les boîtes quantiques semi-conductrices des atomes artificiels pour des technologies quantiques. Mais d'abord, parlons de 2007-2008. Pascale Senella, vous parvenez justement à mettre au point une technique inédite. Ça, c'est important pour la suite de l'aventure.
Oui, c'est tout à fait important. Alors, on vient d'expliquer que si on met un atome dans une cavité, on va pouvoir forcer cet atome à émettre dans une direction pour récupérer le photon qu'il émet et ensuite jouer avec, si je puis me permettre. Mais effectivement, on avait une difficulté énorme quand j'ai commencé dans ce sujet. C'est que les boîtes quantiques dont je vous ai parlé, qu'on fait croître par les techniques d'épitaxie par jet moléculaire, les techniques de croissance, eh bien en fait, elles ont une position aléatoire. On n'était pas capable, on n'est toujours pas capable de contrôler leur position. Et même en fait, si on essaye de les forcer à avoir une certaine position, leur propriété se dégrade. Donc en fait, on ne peut pas vraiment s'en sortir comme ça. Et donc en 2000, donc il y a une vraie difficulté parce que on souhaite mettre l'atome dans une cavité, mais l'atome, on ne sait pas où il est. Vous voyez qu'il y a un petit sujet. Et donc au début de ma carrière, on fabriquait beaucoup de cavités en espérant qu'il y ait un atome de temps en temps dedans. Donc on passait un temps fou à chercher un système qui convienne. Et puis en 2005, en fait, j'ai eu une idée en visitant une expérience à l'université de Southampton où j'ai trouvé une astuce pour trouver une méthode optique pour mesurer la position de mon atome. Donc en fait, je demande à l'atome de faire ce qu'il fait très bien, d'émettre des photons et je vais récupérer ces photons. Mais on va avoir une technique qui permet de mesurer optiquement très précisément la position de cet atome.
Précision nanométrique.
Nanométrique, voilà. Et malgré le fait qu'on utilise la lumière, en fait, on peut avoir une super résolution, très inférieure à la longueur d'onde de la lumière, parce que l'atome, lui, il a une taille de l'ordre de quelques nanomètres. Et donc du coup, en exploitant cette idée, on mesure optiquement la position de l'atome et on définit la cavité autour de cet atome. Et donc on a développé cette technologie. Alors je peux mentionner son côté particulier qui était un petit peu farfelu quand j'ai lancé l'idée, c'est qu'on fait en fait des techniques qu'on appelle de lithographie, c'est-à-dire qu'on va définir des objets avec de la lumière dans une résine. On fait ça à 4 Kelvin, à très basse température, moins 265 degrés. Voilà. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2007, on sait fabriquer de manière reproductible, systématique, des systèmes où on met un seul atome en une cavité. Et là, ça a tout changé.
C'est un gros avantage pour la recherche.
Voilà. D'un seul coup, on était capable de faire des études systématiques, de varier les paramètres, de changer la forme de la cavité, de mettre deux atomes dans la cavité à la place d'un, etc. et de s'amuser et de comprendre beaucoup plus de choses.
Cette technique qui permet donc notamment la fabrication de sources de photons intriquées, eh bien, cette technique, elle va être remarquée par des physiciens, mais d'une troisième communauté, celle du calcul optique quantique.
Tout à fait. Donc en fait, cette technologie qu'on a mise en place en 2007, en 2010, on a fabriqué effectivement des sources de photons intriqués avec un mécanisme d'émission de photons intriqués très proche à celui que Alain Aspect avait étudié dans les années 80 pour montrer la violation des inégalités de Bell. Et donc on fait cette expérience, donc c'est un article qui a été publié dans Nature, où on a une astuce pour collecter efficacement non pas seulement un photon, mais deux photons émis par l'atome, deux photons intriqués. Et là, je suis contactée par un chercheur qui s'appelle Andrew White, qui est un des pionniers, en fait, un des fondateurs du domaine du calcul quantique exploitant la lumière, et qui me dit « c'est super intéressant ce que vous faites, faut qu'on se voit, et surtout, faut que vous continuiez ». Et donc, moi, j'étais une physicienne de l'état solide qui faisait de l'optique quantique. J'étais déjà très contente de ce qu'on avait réussi à faire. Je ne pensais pas forcément pousser mon système plus loin, vers des performances plus importantes, par exemple. Et donc, ce chercheur, Andrew White, qui est devenu depuis un ami, m'a expliqué pourquoi c'était très important qu'on fasse une étape supplémentaire, dont on va peut-être parler, qui est le fait que pour faire des technologies quantiques, nos sources l'intéressait énormément parce qu'elles étaient très performantes. Elles étaient beaucoup plus efficaces que toutes les sources qui existaient jusque-là. Donc ça, c'était un point qui était acquis. On avait déjà ça de fait. Mais pour faire des technologies quantiques, il fallait une propriété supplémentaire. Il fallait que ces photons soient ce qu'on appelle des photons indiscernables.
C'est aussi une notion de la mécanique quantique. C'est l'indiscernabilité des photons.
Des particules en général, en fait. L'indiscernabilité, c'est un postulat de la mécanique quantique qui traite de la situation où on n'est pas capable de différencier deux particules. Par exemple, si vous pensez aux électrons dans un conducteur, ça n'a aucun sens de dire que ça c'est électron 1 et ça c'est électron 2, c'est des électrons. Et donc la mécanique quantique introduit un postulat pour décrire ça. Et ce postulat, si je m'intéresse au cas des photons, puisqu'on parle de photons et de calcul quantique, a un impact très important parce qu'en fait, il permet, en faisant un phénomène qu'on appelle l'interférence quantique, que je vais vous expliquer dans une seconde, de faire des portes logiques entre photons. Alors, le phénomène que je vous décris ici, c'est un phénomène où je prends deux photons et je les envoie chacun à l'entrée de ce qu'on appelle une lame séparatrice. Donc une lame séparatrice, il faut penser que c'est une lame de verre avec une petite couche métallique qui fait que le photon a une 50% de probabilité d'être transmis ou d'être réfléchi. Chaque photon a une probabilité 50% d'être transmis et réfléchi. Donc en fait, on a quatre possibilités. Les photons sortent séparément en étant tous les deux transmis, tous les deux réfléchis, où ils vont sortir ensemble, l'un étant transmis, l'autre réfléchi. Eh bien, la mécanique quantique nous dit que si ces photons sont absolument identiques, eh bien, en fait, ces quatre possibilités ne vont pas avoir lieu. En fait, il y en a deux qui vont s'annuler, en fait, par un phénomène d'interférence, c'est-à-dire que les deux amplitudes vont s'annuler, et les photons vont forcément sortir ensemble. Ensemble, mais de chaque côté. Donc ils sentent ensemble d'un côté et ensemble de l'autre. Et là, cette phrase que je suis en train de dire, c'est la description d'un état où les deux photons sont intriqués, mais intriqués dans le degré de liberté qu'on appelle le chemin. Ils vont aller ensemble des deux côtés à la fois. Et ça, c'est ce dont les chercheurs avaient besoin pour utiliser nos sources qui étaient très brillantes, pour faire leur protocole de calcul quantique.
Donc vous obtenez des photons suffisamment identiques pour que leur intrication soit possible. Ouais. Et donc, à partir du développement de ces techniques, ça a rendu envisageable la fabrication d'un ordinateur quantique.
Une application possible de la mécanique quantique concerne le calcul, les ordinateurs. Il serait possible, en théorie pour l'instant, et qui sait peut-être en pratique un jour, utiliser certains aspects de la mécanique quantique, tel le principe de superposition, pour réaliser un très grand nombre de calculs en parallèle dans le même morceau de matériel. Alors, on peut arriver avec quelques milliers de bits quantiques en superposition à faire un calcul qui serait impossible pour un ordinateur de la taille de l'univers qui fonctionnerait pendant la durée de vie de l'univers. Maintenant, c'est encore purement théorique. Il y a quelques expériences à petite échelle qui ont été réalisées avec succès, mais on ne sait pas encore si ça pourra fonctionner dans la vraie vie pour faire un vrai calcul qu'on ne saurait pas faire en pratique de façon classique. Mais certainement que c'est très intéressant du point de vue de physique fondamentale de faire ces expériences et d'étudier en théorie du moins ce qu'on pourrait faire si la technologie le permettait.
Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement en quoi ça consiste?
C'est que l'information quantique peut se trouver en superposition d'états classiques. Alors, un bit quantique peut être à la fois 0 et 1. C'est pas entre les deux, c'est à la fois 0 et 1. Et de la même façon, si vous avez 10 bits quantiques, ils peuvent être à la fois dans les 1024, 2 puissance 10, états classiques possibles. Et lorsque vous mettez un registre en superposition de toutes les valeurs classiques possibles, il devient possible de calculer en parallèle, en même temps, sur toutes ces valeurs-là, comme si on avait un nombre exponentiel de données sur lesquelles on calcule simultanément. Mais contrairement au parallélisme classique, on ne fait pas ça en ayant un grand nombre de processeurs qui sont un à côté de l'autre, qui font tous un peu la même chose sur différentes données. C'est le même processeur qui fait tous les calculs en même temps, au même endroit. C'est bien sûr très mystérieux et classiquement, ce serait impossible. Mais c'est un des avantages que la mécanique quantique nous permet, du moins en principe.
Là, la voix de Gilles Brassard, dont les recherches portent sur l'ordinateur quantique. Gilles Brassard de l'Université de Montréal, en 1998, extrait de l'émission Staccato sur France Culture. Pascal Senelard, là, on entendait des éléments de réponse déjà dans cette archive, mais comment les ordinateurs quantiques fonctionnent-ils? Enfin, on sait que ça repose quand même sur deux principes de la physique quantique, la superposition et l'intrication quantique.
Oui. Elle est magnifique cette archive, hein, parce qu'il dit beaucoup de choses très intéressantes. Et il introduit pas mal de choses que je vais essayer de reprendre en essayant de mettre un petit peu des images. Vous imaginez bien que l'ordinateur quantique, c'est compliqué hein, d'expliquer comment ça fonctionne. Donc je vais faire des images simplificatrices. Donc oui, on part de la superposition et de l'intrication. Donc la superposition, on en a déjà parlé. Hein, c'est l'exemple que j'ai donné où les photons passent des deux côtés à la fois. L'intrication, on vient aussi d'en parler, c'est mes deux photons qui sortent ensemble à droite et à gauche. C'est-à-dire que si je mesure le photon, un des photons à droite, l'autre, je sais qu'il est aussi à droite. Et si je mesure l'un à gauche, je sais que l'autre est à gauche. Donc ça décrit le destin de deux particules qui sont liées, et dont le destin est lié. Pardon. Et donc, l'ordinateur quantique va exploiter tout ça pour faire un calcul plus efficace. Et donc, Gilles Brassard parle de parallélisme. Donc, je vais prendre un exemple où on va parler de parallélisme. Et j'expliquerai ensuite pourquoi cet exemple est trop simple, hein, mais il permet quand même de donner une idée. Donc si on essaye de faire sortir, je prends l'exemple d'un personnage qu'on veut faire sortir d'un labyrinthe. Dans le monde classique, ce personnage doit à chaque intersection choisir d'aller soit à droite, soit à gauche, soit en face, prendre des notes et se rappeler tous les chemins qui n'ont pas abouti. Donc on va avoir une exploration séquentielle du labyrinthe qui va prendre un certain temps et plus le labyrinthe est grand, plus ça va être long de trouver la sortie. Dans le monde quantique, comme le personnage que je considère peut aller à la fois à droite, en face et à gauche, il va finalement à chaque intersection explorer tous les chemins en même temps. C'est une façon d'envisager le parallélisme dont on parle, dont Gilles Brassard parlait. Et on voit très bien qu'avec cette image hyper simplifiée, le personnage va sortir très rapidement du labyrinthe, va trouver la sortie très rapidement. Donc c'est une façon de comprendre comment l'ordinateur quantique peut aller beaucoup plus vite, hein, avec un parallélisme qui est lié au fonctionnement de l'ordinateur quantique. Malgré tout, je veux tout de suite corriger le fait que c'est une image simplificatrice, parce qu'en fait, quand j'ai dit que mes photons sortent tous les deux de chaque côté, il y a une probabilité 1,5 qui sortent tous les deux d'un côté, une probabilité 1,5 qui sortent des deux de l'autre côté. Donc si je regarde la probabilité que mon personnage trouve la sortie, finalement, elle va être assez faible si je n'utilise que ce que je viens de dire, qui est la superposition de mon personnage dans tout le chemin du labyrinthe. Donc, pour faire un ordinateur quantique, on va utiliser cette superposition, mais on va aussi utiliser l'intrication, et on va développer, et c'est là qu'il y a tout un travail de recherche au-delà du hardware hein, qu'on est en train de discuter, pour faire des algorithmes qui font en sorte que cette superposition et ce parallélisme va trouver la solution plus rapidement, mais avec une probabilité très grande d'arriver au bon résultat. Donc, il y a un mélange, bien sûr, des concepts et de l'algorithme pour faire fonctionner cet ordinateur potentiellement extrêmement efficacement par rapport aux ordinateurs classiques.
On va évidemment parler de comment fonctionne l'ordinateur quantique de Candela, mais d'abord, peut-être exposer ces différents modèles d'ordinateurs quantiques, hein, sur quoi ils reposent.
Alors, les modèles physiques ou...
Les modèles physiques,
oui. Donc, c'est-à-dire que là, on est un petit peu au début de l'histoire. Hein. C'est comme quand, il y a 80 ans, les gens ont commencé à travailler, à développer des ordinateurs classiques. On part du hardware et on a plusieurs possibilités. On peut utiliser des photons, comme nous le faisons chez Candela. On peut utiliser des atomes, comme la start-up Pascal le fait. On peut utiliser des petits circuits supraconducteurs. Ça, c'est par exemple ce qui est exploré par la start-up Alice et Bob en France, ou IBM ou Google à l'international. On peut utiliser des petits moments magnétiques élémentaires, si vous me permettez cette simplification, qu'on appelle le spin, dans des matériaux de type semi-conducteur. Ça, c'est aussi exploré, par exemple, en France, par la start-up Cobly, mais par d'autres aussi à l'étranger, etc. Donc, on est vraiment au tout début de l'histoire. Dans l'ordinateur classique aussi, en fait, il y a eu plusieurs façons de penser à fabriquer la machine. Et au fil du temps, des technologies sont devenues plus performantes que d'autres. Donc, on en est vraiment au tout début.
Tout début. Alors, la start-up, Candela, vous la fondez, vous la co-fondez en 2017. À ce moment-là, quel est l'objectif de départ? Alors, c'est la fabrication de composants pour la photonique quantique?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, quand on a créé... Donc, en fait, on a créé la start-up avec Valérian Gies et Nicolas Somaski, qui étaient les deux jeunes chercheurs de l'équipe en 2016, quand on a réussi à avoir les photons très indiscernables qu'Andrew White nous disait qu'il fallait qu'on obtienne. Et donc, à ce moment-là, c'était très satisfaisant. Aux conférences, les gens étaient super contents de voir qu'on avait enfin ce genre de composants. Et ils venaient vers nous en disant, on voudrait ces sources, ces composants pour faire nos recherches. Donc, notre premier objectif, c'était de fabriquer d'une certaine façon l'équivalent d'un laser, mais cette fois-ci c'est une source qui émet des photons à part un, mais le laser est devenu un outil d'investigation scientifique très important, et on pense que les sources de photons uniques permettent aussi de faire de la nouvelle science. Donc c'est ça notre première motivation, permettre la nouvelle science, notamment pour développer les technologies quantiques, la communication quantique, mais aussi pour faire de la nouvelle science fondamentale avec la possibilité d'avoir une source de lumière qui émet des photons à part un. Donc on crée Candela en 2017 comme ça, et on commence à vendre nos premières sources, dès 2017 d'ailleurs. Et depuis, on a vendu, installé un certain nombre de sources dans les plus grands laboratoires académiques qui travaillent effectivement sur ces sujets. Voilà, donc ça c'était le début de l'aventure.
C'est le début de l'aventure et on va voir comment elle se poursuit. On va aussi voir quels sont les avantages de l'approche photonique et quels sont les intérêts et usages de ces technologies en développement. Restez avec nous. Quantic Dream de Rita Braga en direct sur France Culture, car nous parlons de la photonique quantique, nous parlons des technologies quantiques avec Pascale Senelard, qui est physicienne, directrice de recherche NRS au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie, cofondatrice et conseillère scientifique de la start-up Candela et membre de l'Académie des Sciences depuis 2022. On vient de voir comment vos travaux, comment vous avez réussi à contrôler l'émission de photons uniques, comment en 2013 vous avez été contacté par les physiciens de l'optique quantique. Et nous avons commencé à parler de l'ordinateur quantique que vous développez en ce moment dans l'entreprise Candela. Comment Concrètement, ça fonctionne. Comment la start-up Candela met-elle au point cet ordinateur quantique? Il y a plusieurs étapes.
Oui, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes dans l'histoire, et puis il y a la machine à quoi ressemble-t-elle. Donc, dans l'histoire, on vient de dire, en 2017, on veut mettre ces composants à disposition des scientifiques et des ingénieurs qui développent les ordinateurs quantiques et les technologies quantiques en général. Et puis, entre les deux, l'écosystème a beaucoup changé. Des équipes chinoises ont mis un satellite dans l'espace pour montrer qu'on pouvait faire des communications quantiques depuis l'espace. En 2019, Google annonce qu'il a fabriqué un ordinateur quantique avec des supraconducteurs qui peut faire des calculs plus rapidement que les meilleurs calculateurs classiques. En gros, il y a un énorme engouement sur les technologies quantiques et beaucoup de choses changent. Et là, on se dit, en 2020, qu'en fait, maintenant, le développement de l'ordinateur quantique, c'est probablement quelque chose qui doit se faire dans une société plutôt que dans les laboratoires, qu'il faut mettre les moyens pour accélérer très vite le développement de ces ordinateurs. Et donc là, en 2020, on embauche quelqu'un, parce que nous, on était des physiciens, hein, on faisait des sources, hein, puis c'est tout. On embauche quelqu'un qui fait de l'algorithmique, qui s'appelle Shane Mansfield, pour nous aider à passer à une étape suivante, qui est le développement de l'ordinateur quantique chez Candela. Et en 2022, on aura aussi l'arrivée d'informaticiens, notamment Jean Senelard, pour faire toute la pile logicielle qu'il va falloir faire au-delà de l'ordinateur. Donc maintenant, je peux vous dire un petit peu à quoi ressemble la machine. Dans un ordinateur quantique photonique, on est en fait dans un système qui est assez facile à décrire. Il faut imaginer que vous avez des sources de photons uniques qui émettent des photons un par un. Et on a dit tout à l'heure que quand deux photons arrivent sur une lame semi-transparente, ils sortent ensemble de manière intriquée. Donc c'est comme ça qu'on va faire l'intrication et les portes logiques. Donc vous envoyez des photons dans un circuit photonique intégré. On fait pas ça avec une lame de verre, bien sûr, mais on fait ça avec des guides d'ondes sur une puce où les photons se rencontrent et s'intriquent. Donc vous imaginez des sources, un circuit photonique intégré avec des guides d'ondes où les photons se rencontrent, et puis à la sortie, des détecteurs. Et ça, en gros, c'est la partie hardware des premiers prototypes de calcul quantique photonique. Au-dessus de ça, il faut rajouter bien sûr un système de contrôle qui va contrôler la configuration qu'on va donner au circuit pour faire le calcul que l'on souhaite faire, et puis une pile logicielle qui va faire le lien entre cet hardware et puis l'utilisateur. Alors Candela a mis cet ordinateur sur le cloud il y a 2 ans. Cet utilisateur veut faire des calculs, il faut traduire le langage de l'utilisateur en des instructions pour faire fonctionner la machine.
Finalement, Candela construit presque une grande calculatrice un peu complexe. Non, je me permets, cette boutade par
tout
rapport à votre parcours où vous nous racontiez qu'enfant vous construisiez des calculatrices mécaniques.
C'est ça qui est formidable. C'est extraordinaire de faire de bout en bout la machine depuis zéro. C'est vraiment une chance extraordinaire.
Ouais. Mais la brique de base de cet ordinateur quantique, on l'a dit, c'est le qubit. Il existe plusieurs techniques pour en fabriquer dans votre start-up cofondée avec vous et puis plusieurs de vos collègues que l'on va rencontrer dans quelques instants. Vous avez choisi d'utiliser des qubits photoniques et c'est notre reportage du jour. On vous fait la visite avec vous, Noémie Eliazor, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes allée à Massy visiter l'usine d'assemblage de l'ordinateur quantique de Candela.
Oui, les qubits de Candela sont encodés dans des particules de lumière, des photons. L'avantage d'utiliser le photon comme qubit, c'est de pouvoir travailler à basse température, contrairement à d'autres techniques qui nécessitent un refroidissement plus important. Le défi technique dans cette aventure a été de réussir à générer un photon unique grâce à des sources en silicium ou en gallium. Valérian Giesse, qui est l'un des cofondateurs de Candela avec Pascal Senelard et Nicolas Meringue, m'a fait visiter le site d'assemblage de leur ordinateur quantique photonique.
On fait des calculs avec des photons un par un. Et donc la partie qui a été difficile pendant plusieurs années, et c'est vraiment la technologie qui a été inventée au sein de nanosciences et nanotechnologie, c'est cette capacité à émettre des photons avec une très grande efficacité. On parle de brillance, même si un seul photon par un seul photon, et toujours avec des photons de très bonne pureté. Et là, on parle d'indiscernabilité, parce qu'en fait, on définit la pureté comme le fait que tous les photons soient exactement tous les mêmes, dans un état pur. Ensuite, il y a un démultiplexeur qui permet d'envoyer les photons émis par la source dans plusieurs canaux en simultané. Tout est synchronisé ensuite juste en modifiant ou en prenant des longueurs de fibres différentes et connecté ensuite à ce qu'on appelle un circuit photonique. C'est là où il va vraiment se faire la partie de calcul sur le circuit photonique. Donc là, c'est en fait plein d'interféromètres où on va pouvoir changer la façon dont les photons vont se répartir entre tous les chemins. Ils vont même pouvoir interférer les uns avec les autres. On dit même que les photons vont s'intriquer les uns avec les autres, parce que quand deux photons vont arriver en même temps sur un petit séparateur de faisceau, là, une petite conjonction de deux chemins, ils vont interférer. C'est des interférences quantiques. Donc à la fin, on va se retrouver dans un état quantique. Quand ils vont sortir de ces séparateurs de faisceaux, ils vont sortir en étant intriqués. Et donc on fait des calculs comme ça sur plusieurs modes. Ça, c'est le nombre de qubits. Donc ici, on a des machines qui vont être à 6 qubits. On a une machine à 12 qubits aussi. Et à la fin, on envoie nos photons sur des détecteurs que je vais vous montrer. Et ces détecteurs vont déclencher un 0 ou un 1, s'ils ont 0 s'il n'y a pas de photon, 1 s'ils ont détecté un photon. Donc on envoie 6 photons en entrée, normalement on a 6 photons en sortie, on regarde où est-ce que sont nos photons, et ça, la statistique va nous donner le résultat de notre calcul. Évidemment, c'est analysé par des logiciels, par des électroniques, qui fait qu'à la fin, les utilisateurs ont un résultat quand même un peu plus digeste que des 0 et des 1. Là, on va aller dans les espaces assemblage. Dans cette usine, en fait, on n'a pas de salle blanche. Donc, on a Candela à sa propre salle blanche à Palaiseau. On fabrique nous-mêmes les sources. Ensuite, les sources viennent ici en étant avec la fibre collée. Et on assemble tout ici. Donc, ici, on va recevoir les lasers, on va recevoir les champs cryogéniques, on reçoit tous les éléments. Et donc, on vient assembler tout ça. Et donc, c'est ici, on fait la construction des ordinateurs, on les met en route, et on a même un espace pour les avoir dans le cloud, puisqu'on a des ordinateurs qui sont disponibles pour des clients, mais à distance. Alors là, je vais vous montrer un exemple de cryostat. Donc ça, c'est dans, on est sous la hotte, c'est là où on va ouvrir les chambres de cryostat pour pouvoir insérer les sources et les détecteurs. Donc celui-ci, bah, il est prêt à être installé. On a retiré les deux boucliers thermiques, donc c'est des boucliers, vous voyez, réfléchissants. Ça, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'infrarouge qui rentre dans la chambre et qui puisse justement être un frein, enfin réchauffer l'intérieur de la chambre. Donc on a vraiment des boucliers thermiques pour s'assurer qu'on a la basse température en dessous. Là, je vous montre des sources qui viennent donc de la salle blanche. Donc elles sont dans des... vous voyez, il y a la partie verte, ça c'est pour faire les contacts électriques, c'est du PCB. Mais au-dessus, ce petit chapeau métallique avec la fibre optique, c'est par là que vont être émis les photons uniques. Donc en dessous de la partie métallique, on a vraiment les quantum dots dans les cavités qui sont protégées. Et tout ça, c'est des puces en semi-conducteur 3.5 qui sont fabriquées dans les salles blanches sur le plateau de Saclay. Alors, ici, c'est là où on va caractériser, c'est une autre hôte aussi, on fait attention qu'il n'y ait pas beaucoup de poussière, on vient caractériser les circuits photoniques. Donc on fait fabriquer nos circuits photoniques dans des fonderies, elles arrivent ici dans cette boîte. Et on a des ingénieurs qui vont les caractériser, c'est-à-dire qui vont vérifier que leur comportement, c'est exactement celui qu'on veut, avec le minimum de pertes possible. Et ensuite, on vient coller des fibres optiques sur ces circuits photoniques pour pouvoir les intégrer. Puisque là, vous voyez, il y a juste les morceaux de semi-conducteurs. Il faut ensuite bien coller les fibres. Il faut pouvoir faire aussi toutes les soudures pour pouvoir appliquer une tension dessus. Donc tout ce travail, il est fait chez Candela, à l'intérieur de cette hotte. En fait, l'avantage de l'architecture de Candela, c'est qu'on nos ordinateurs, donc c'est des grosses armoires avec des racks. Et en fait, on va travailler sur l'assemblage de chaque rack un par un. Donc, on va travailler sur les électroniques, on met des optiques dans chaque rack. Chaque rack va avoir une fonction. Donc, chaque tiroir a sa fonction. On assemble tout ça dans nos ordinateurs. C'est connecté soit par des fibres optiques, soit par des câbles électroniques. Tout ça est contrôlé par un cerveau centrale, et derrière ça fait un ordinateur quantique. Et la prochaine étape, c'est l'ordinateur quantique. Voilà. Finalement, à la fin du process, comme j'ai dit, c'est une grande armoire, comme ce qu'on retrouve dans des centres de données. Donc là, vous voyez, On a des bandeaux de fibres optiques vers derrière qui vont venir connecter chaque module les uns après les autres. Donc chaque étage a une fonction bien définie. D'abord la source, ensuite les démultiplexeurs, ensuite le circuit photonique. Et derrière, on vient détecter l'état quantique en détectant les photons. Donc c'est avec les détecteurs de photons uniques qui permettent de faire ça. Ça, c'est de la fibre optique. Après, ça, c'est les câbles d'alimentation. Heureusement, il y en a quelques-uns. Mais finalement, si vous regardez, tout est branché sur une prise normale de 120 volts. Et il n'y a rien d'autre qui sort.
Ça consomme peu d'énergie.
Ça consomme très, très peu d'énergie. Parce que finalement, quand je vous ai montré l'intérieur des tiroirs, on a surtout des petits miroirs. Ça consomme rien d'énergie. On peut manipuler en fait des photons à 0 watt. Ça, c'est l'avantage de la photonique.
Merci Noémie Eliazor pour la visite. Pascal Senelard, pour compléter ce qu'on vient d'entendre, quels sont les avantages de l'approche photonique ?
Alors, les avantages de l'approche photonique, c'est en fait que le photon est une particule qui n'a pas de masse et pas de charge. Donc ça, c'est une propriété qui est très intéressante parce qu'en mécanique quantique et dans les technologies quantiques, ce qui nous inquiète, c'est tout ce qui pourrait détruire la superposition quantique. Si je prends l'exemple, si je reviens sur mon photon qui passe à travers deux fentes, on peut faire la même expérience avec deux électrons qui passent à travers deux fentes. L'électron est aussi une onde en mécanique quantique. Cet électron, par contre, il a une charge, il a une masse. Et donc, il va pouvoir se cogner, par exemple, interagir avec une autre charge. Et s'il interagit avec une autre charge, eh bien, c'est comme si j'essayais de savoir par où il était passé. Et ça, en fait, on l'a dit tout à l'heure, hein, si j'essaye de savoir par où passe le photon, je détruis la superposition quantique. Eh bien, si je fais la même chose avec un électron, et que cet électron interagit avec une charge dans une défente, par exemple, eh bien, d'un seul coup, j'ai tué la superposition quantique. Là, c'est pas moi qui ai essayé de savoir par où passait l'électron, c'est juste que l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'environnement, ce qui l'entoure, les charges qui fluctuent, etc., d'une certaine façon, interagissent avec lui, et se comportent comme si ils interrogeaient le système et détruisent la superposition quantique. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Et donc cette décohérence, vous voyez qu'avec un photon qui n'a pas de charge par de masse, sur le papier, on est quand même très protégé de ces processus de décohérence. Et donc ça, c'est un des premiers avantages de l'ordinateur quantique photonique. Le deuxième, c'est que l'ordinateur, comme il fonctionne avec de la lumière, et on sait que pour faire des ordinateurs de plus en plus grands, on va devoir mettre en parallèle les modules que Valérian décrivait dans cette visite. Et ça, c'est vrai pour toutes les plateformes, qu'elles utilisent des supraconducteurs, des atomes, etc. On sait que pour passer à un plus grand nombre de qubits, on va devoir utiliser de la lumière entre les deux, probablement, pour connecter différentes plateformes. Et nous, nos systèmes sont déjà à base de lumière, donc ça, c'est facile.
Mais en attendant, les ordinateurs quantiques promettent d'ouvrir des capacités inouïes de calcul, mais en attendant, leur marge d'erreur est encore trop élevée. Pour l'instant, ils ne font que des calculs assez simples.
Oui.
Comment confronter ce problème de taille que vous venez de nous décrire, hein, le problème de la décohérence, la fin de la superposition? Quelles sont vos pistes et les perspectives à venir, Pascal Senelard?
Oui, alors pour les photons, comme je disais, les photons sont peu sensibles à la décohérence. Il reste quand même des phénomènes qui nous posent problème. Le premier, c'est le fait que le photon peut être absorbé dans la matière qui nous entoure. En fait, si vous envoyez de la lumière sur une lame, il y a une probabilité de l'ordre de 1% que le photon ne traverse pas la lame. Donc ça, le premier enjeu pour Candela, c'est de réduire toutes les pertes, on appelle ça des pertes, tout ce qui pourrait absorber dans une fibre optique, il y a un petit peu d'absorption, il faut qu'on réduise ces absorptions-là. Donc ça, c'est un gros enjeu, je dirais, complètement technologique. Et puis, nous, nos photons sont générés par des atomes artificiels dont je vous ai parlé, qui sont des petits atomes, des systèmes qui ressemblent à des atomes dans des matériaux, qui pour le coup vibrent. C'est des cristaux, il y a des vibrations, etc. Donc en fait, il faut absolument que nos photons soient tous les mêmes, comme je le disais tout à l'heure. C'est ça notre décohérence. C'est le fait que quand l'atome émet un photon, eh bien l'environnement qui l'entoure peut avoir un petit peu changé. Et donc tous les efforts de recherche qu'on a fait les 20 dernières années pour rendre ces photons très purs, ils ne sont pas finis parce que actuellement on est à des puretés de 97-98% et on sait qu'on devra s'approcher de 99-99.5 et donc il y a encore de la recherche fondamentale pour mieux isoler encore l'atome de tout ce qui l'entoure.
Ça, ce sont des verrous scientifiques et technologiques qu'on peut espérer dépasser dans combien de temps ?
Alors, c'est très dur, hein, mais on a toute une roadmap, tout un plan pour le faire, je ne peux pas vous donner des années, hein, ça va nous prendre quelques années. Ça, c'est le côté améliorer le hardware. Et puis, on a en parallèle dans les équipes tout un effort côté algorithme pour justement trouver des astuces pour corriger ces erreurs, corriger ces imperfections, bien qu'elles existent, même si elles existent, et trouver des astuces. Donc, c'est ce qu'on appelle la correction d'erreurs pour faire ça. Et donc, en fait, il y a une espèce de convergence des efforts. Les théoriciens nous aident à trouver, entre guillemets, des seuils plus atteignables, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on nous demande de faire des sources à 99% de pureté, ils vont nous dire, ben, finalement, je peux m'en sortir avec 98%, mais il faudra peut-être que tu fasses ça, comme ça, etc. Donc, c'est une convergence, en fait, entre le hardware et l'algorithme pour trouver un point de fonctionnement le plus tôt possible, si je puis me permettre.
Le plus tôt possible, parce qu'en effet, le quantique, c'est aussi, ce sont des enjeux politiques. Le plan quantique français, à près de 2 milliards d'euros sur 5 ans, qui avait été annoncé en 2021 par Emmanuel Macron, oui, pour mettre la recherche française au centre de la course, parce que c'est une course internationale. Comment se positionne la France vis-à-vis justement de cette compétition internationale ?
Écoutez, la France se positionne très bien. Je pense que le plan quantique français a vraiment... et puis l'impulsion française et européenne de soutenir toutes ces start-up du quantique. On a vu l'émergence en quelques années d'un grand nombre de start-up qui sont reconnues internationalement. Et leur reconnaissance internationale vient de la qualité des travaux scientifiques dont elles sont issues. Il y en a plusieurs et je pense que du coup les startups françaises sont très bien positionnées. Après, ça reste très difficile, hein. Évidemment, c'est un exercice très difficile parce que la compétition est féroce. Et dans les aspects importants pour une startup, pour gagner la course, il y a la science, il y a la technologie, mais il y a aussi les financements. Et ça, on est à CQFD, on ne parle pas de financement, mais malgré tout, ça fait partie des aspects importants.
On sait que c'est le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre pour aller vite. Mais ces sujets.
Derrière ces questions, en effet, de financement et de courses technologiques, on parle quand même aussi de souveraineté technologique, Pascal Sonnellard.
Oui, tout à fait. En fait, l'idée derrière cette course à l'ordinateur quantique, c'est que l'État ou la société qui aurait cet ordinateur qui fonctionne et qui permettrait de faire des calculs que personne d'autre ne peut faire, et je peux prendre des exemples, par exemple ça peut être des prédictions bancaires, ça peut être des protocoles qui permettent de craquer entre guillemets des systèmes d'encryption, eh bien cette société ou ce pays aurait un avantage incroyable par rapport aux autres. Donc d'une certaine façon, et il faut être très clair, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est difficile, on ne sait pas exactement quand ça va arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont convaincus que ça va finir par marcher, on ne sait pas exactement dans combien de temps. Et personne ne peut vraiment se permettre de se dire, bah, en fait, non, ça va pas arriver. Et c'est un petit peu comme l'intelligence artificielle finalement. Il y avait un train à prendre, c'était très important de le prendre, et on voit maintenant l'enjeu incroyable de maîtriser ces technologies. Et bien, je pense qu'il y a le même sentiment pour le quantique qui justifie tous ces efforts.
L'ordinateur quantique, quand même, faut aussi le replacer dans son contexte, c'est qu'il n'a pas vocation à remplacer nos ordinateurs classiques.
Bien sûr que non. Non, il est là vraiment pour faire certains types de calculs beaucoup plus rapidement. On peut penser plutôt à une complémentarité des différents machine de calcul, c'est un petit peu comme quand on a introduit ce qu'on appelle les GPU, les cartes graphiques, qui ont permis d'accélérer certains types de calculs très efficacement. Le processeur quantique serait à côté de l'ordinateur classique et on lui confierait une partie des calculs qu'il peut faire plus rapidement que l'ordinateur classique. Mais il ne s'agit bien sûr pas de remplacer tout ça, c'est une addition de compétences et de spécificités de différentes machines.
Donc, écoutez, merci beaucoup Pascal Sonnellard de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et de nous avoir fait vivre les différents
merci
points étapes de cette course, de ce marathon qui n'est donc pas fini, qu'on continuera de suivre. Merci, merci infiniment. Dans quelques secondes, on retrouve tout de suite la chronique d'Alexandra Delbo. Toute la semaine, dans la chronique Avec Science, Alexandra Delbo fait le point sur les idées reçues autour de la grossesse.
Les femmes enceintes souffrent-elles du syndrome du neurone unique ? On l'appelle mommy brain, baby brain ou même mamnésie, un état qui se caractériserait par des oublis fréquents, une perte de repères dans l'espace, voire une baisse de la capacité intellectuelle. Les femmes enceintes seraient donc moins attentives, moins concentrées et solliciteraient moins leur cerveau. En tout cas, c'est ce que sous-entend le terme de syndrome du neurone unique. Alors est-ce vrai ? Est-ce que ce syndrome a une réelle existence scientifique en tant que maladie ? Réponse avec Lucie Joly, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, enseignante à Sorbonne Université et co-autrice du livre « Dans le cerveau des mamans, la maternité, l'amour et le baby blues » expliqué par les neurosciences, paru aux éditions du Rocher.
Alors oui, mais on ne peut pas parler de pathologie. En fait, on parle beaucoup du corps de la femme enceinte, mais en fait, le cerveau, il est aussi transformé par la grossesse sous l'influence des hormones comme les œstrogènes et la progestérone. Et ce qu'on sait, c'est que l'architecture, le volume et l'activité du cerveau vont être profondément bouleversés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité périnatale. Et en fait, on sait qu'il y a plusieurs études qui ont été menées par l'équipe, par exemple, de Susana Carmona à Madrid, qui ont montré qu'il y avait une réduction du volume de matière grise pendant la grossesse. Et en effet, certaines femmes vont ressentir des troubles de la mémoire, de la concentration, de la planification pendant la grossesse et après l'accouchement. Mais pour autant, en fait, ces changements anatomiques, ils signifient pas une perte, une diminution de l'acuité intellectuelle.
La fatigue intense provoquée par le fait de fabriquer un être humain pourrait participer à l'apparition de cet esprit un petit peu embrumé. Mais la principale cause, ce sont évidemment les hormones. Selon une méta-analyse de 2018, 4 femmes enceintes sur 5 seraient touchées par ces symptômes qui ne concernent que les fonctions exécutives. Donc, il y a bien une modification cérébrale avec les hormones, mais l'idée reçue réside dans la pathologie. De cet état, ce n'est pas une maladie, donc les femmes enceintes n'en souffrent pas. Le terme de syndrome induit d'ailleurs un petit peu en erreur, tout comme celui de neurone unique, car cela ne touche pas à l'intelligence. Aucune baisse de QI n'a été observée chez les femmes enceintes. Mais est-ce que ce mommy brain, ce cerveau embrumé, sert à quelque chose ou c'est simplement un effet collatéral des hormones? Alors, ça aurait une véritable utilité à terme. Ces changements profonds dans la matière grise et blanche prépareraient tout simplement la future mère à répondre plus efficacement aux besoins d'un nouveau-né.
Dans les neurosciences, en fait, on observe par exemple des modifications dans le système limbique qui est associé à l'encodage et à la recherche de récompenses, ou encore dans des zones qui sont impliquées dans l'empathie ou la cognition sociale. Sur le plan comportemental, en fait, on observe que les femmes enceintes ont une détection améliorée des émotions faciales ou encore des pleurs du nouveau-né. Et donc, c'est assez fascinant parce que ces recherches, elles apportent un éclairage nouveau sur les ajustements cérébraux liés à la grossesse et à la maternité qui mettent en fait en avant leur rôle adaptatif plutôt qu'un simple déclin ou une perte. Il va y avoir un retour à la normale, selon certaines études, dans les 6 mois, 1 an après l'accouchement. D'autres études montrent que ça peut même aller jusqu'à 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'on parle de postpartum qui durerait 3 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque grossesse, en fait, laisse une empreinte sur le cerveau maternel qui va persister tout au long de la vie.
Le phénomène est en partie seulement réversible et laisse des traces durables. Par exemple, des études ont montré qu'on peut distinguer, grâce à l'activité cérébrale et de l'imagerie, les femmes qui ont eu des enfants de celles qui n'en ont pas eu et même, dans certains cas, deviner combien elles en ont eu. Et ce n'est pas tout. Le cerveau des pères subirait aussi des variations après la naissance de leur enfant, mais le phénomène est bien plus important chez la nouvelle mère. Ces particularités cérébrales de la femme enceinte sont un enjeu de recherche actuel pour savoir comment la neuroplasticité périnatale se met en place et à quel moment de la grossesse. L'autre perspective, c'est de mieux appréhender les troubles psychiques après la naissance, pendant cette période du postpartum.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyer-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.